pac, pac.
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
C'est juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Madame Nancy Doyon, qu'on appelle communément sosnancy.com, comment allez-vous?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien. Aujourd'hui, on parle du burn-out parental. Je taboute, je suis plus capable. J'ai pas d'argent pour avoir tes services, mais je me dis, tiens, je vais en profiter pendant une chronique de 60 minutes. On parle du burn-out parental. Début d'année scolaire, je vais te dire qu'il y en a qui ont pogné leur mur en tant que parents avec leurs enfants. Ouais. Parce que là, leurs enfants ont, sont supposés d'avoir maturé, ça se dit-tu? Maturé, oui. Et finalement,
ça, c'est dans nos espoirs.
Et finalement, tu te rends compte que non, ils sont pareils comme l'année d'avant. Ils ont quelques difficultés pour faire les devoirs et leçons. Puis des fois, ben, quelques petites résistances à faire leurs devoirs et leçons quand ça va peut-être un peu moins bien.
Fait que, ça, puis yeah. Écoute, souvent l'été, on a l'impression qu'on va avoir bien, bien du temps pour se reposer puis recharger les batteries.
Ouais.
On a eu 2 semaines, 3 semaines de vacances, puis là, ben, la rentrée arrive, on court pour le stock, pour les achats, réorganise l'horaire, la rencontre scolaire, le ci, le ça, le retour au travail. Puis c'est fou de voir le nombre de parents qui disent « Hey, t'as un peu, là, mes prochaines vacances, c'est aux fêtes. »
Ouais, c'est
moi,
ça.
Moi, je suis déjà pré-fatiguée. Je suis comme fatiguée à l'avance de ce qui s'en vient.
Puis en même temps, tu sais, c'est gênant ce que j'ai vécu hier soir, je pense. Ça m'arrive une fois de temps en temps, là. Ça m'est arrivé avec mon plus vieux, là. Ça m'arrive avec mon plus jeune. Tu sais, c'est de la matière de troisième année du primaire, là. Puis là, c'est de la matière de français. Puis là, je regardais les explications du professeur. Je regardais les mots en dessous. Sérieusement, SOS Nancy, là, j'avais aucune idée ce que voulait le professeur. Mon enfant avait une idée approximative. Là, à côté de mon gars, j'ai été sur ChatGPT. J'ai pris une photo. Puis là, ben, lui m'a donné les instructions nécessaires avec les bonnes réponses. Puis là, avec ce que je voyais, j'étais en mesure d'aiguiller mon enfant sans lui y donner les bonnes réponses, bien entendu. Puis à la correction par la suite, ben là, j'étais capable de dire si c'était correct ou si ça l'était pas. Mais c'est tough. C'est tough. C'est tough quand tu reviens dans la matière de 3e, 4e, 5e année, là, puis là, toi, c'est loin dans ta tête. Bon Dieu que...
Je pense qu'on a notre ami chat.
Ben maintenant, oui. Puis, tu sais, c'est à se demander... Tu sais, toi puis moi, on est à peu près du même âge. Je veux pas te vieillir, là. Mais c'est juste toi, t'as de l'air beaucoup jeune, là. Mais... nos parents faisaient quoi quand on arrivait avec cette matière-là? Pour eux autres aussi, là, ça faisait comme 20 ans, 25 ans qu'ils n'avaient pas vu ça. Là.
Mais tu sais, moi, dans mon souvenir à moi, puis ça, c'est quelque chose, tu sais, récemment, je repensais à ma vie de quand moi, j'étais jeune, puis je compare avec la vie des enfants et des parents d'aujourd'hui.
Ouais.
Tu sais, moi, ma mère, là, elle était à la maison,
mm-hmm.
OK? Fait qu'elle... Elle avait comme juste ça à faire, se préoccuper de notre encadrement puis de l'organisation familiale. Au niveau, si on pense juste au niveau des devoirs et leçons, ma mère, j'ai pas le souvenir qu'elle se soit assise à côté de moi pour m'expliquer les affaires. Si je comprenais pas, c'était pas elle qui m'expliquait, elle me disait « Ben, demande à ton prof demain. » Ma mère, ce serait pas risqué à m'expliquer le complément d'objet direct, là.
OK, ben tu me rappelles que c'était ça moi aussi, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais les devoirs et les leçons avec mes enfants puis je les assiste là-dedans?
Bien, c'est quelque chose qui est arrivé de façon progressive, je te dirais. Moi, quand moi, j'étais maman de ma fille,
ouais.
À l'entrée à l'école, c'était un peu ça la norme déjà, de dire okay. Ben, première, deuxième, troisième année, on s'assoit avec nos enfants puis on essaye de leur donner un coup de main. Sauf que sont bien rares les profs qui veulent vraiment que nous autres, on leur explique les affaires. C'est pas ça que les profs veulent. Les parents se sont appropriés cette tâche-là, mais ce n'est pas notre job. Si ton jeune ne comprend pas, que ce soit en français, en mathématiques ou en histoire, si ton jeune ne comprend pas, toi, ta job, c'est de l'encourager, de l'aider à voir où est-ce qu'il pourrait peut-être trouver l'information, lui poser des questions pour qu'il réfléchisse. Mais s'il ne comprend pas, le prof, il veut le savoir qu'il ne comprend pas. Fait que si toi, avec ChatGPT, tu lui donnes des réponses ou tu lui expliques les affaires, ça se peut que tu ne l'expliques pas comme le prof l'a expliqué. Chat, il est bien bon, là, mais il ne va pas avec toutes les façons individuelles d'enseigner des profs.
Ouais.
Puis le prof, il ne saura peut-être pas que ton jeune n'avait pas compris. Fait que lui, il voit un beau devoir bien fait avec tout plein de bonnes réponses. Fait qu'il se dit, ah, ben il a bien compris, c'est correct, on passe à la situation suivante. L'objectif des devoirs, c'est un peu ça, c'est que le jeune travaille tout seul de son bord. Puis le prof, ben, quand il corrige, il peut voir qu'est-ce qui est bien intégré, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quelle matière il doit revenir, avec qui ou pas. Fait que tu sais, on s'est donné cette espèce de mandat-là. Puis là, l'autre affaire, mon jeune est rendu en troisième année. En troisième année, là. Il vient pas me faire à croire que le prof est tout le temps assis à côté de lui quand il travaille en
Non,
classe.
t'as raison.
Mais pourquoi toi, tu faudrait que tu sois tout le temps assis à côté?
C'est une bonne question,
Première
mais
année.
peut-être pour être prêt. Tu sais, on dirait qu'on se donne bonne conscience en appuyant nos enfants dans leurs études, puis en vérifiant si les devoirs sont bien faits, puis les leçons sont bien apprises. Mais t'as raison, on peut même nuire à notre enfant quand on fait ça, parce que le professeur n'est pas en
Exact.
mesure de comprendre, de savoir si c'est bien acquis la matière ou si ça ne l'est pas du tout. Fait que là, ce que tu me dis, c'est qu'en corrigeant tout ça, puis en m'assurant que tous ces devoirs soient bien faits, je nuis probablement à mon enfant alors que c'est la dernière des choses que je veux faire.
Ben c'est ça. Toi, ta job,
Ah!
c'est de t'assurer qu'il fasse ses devoirs, puis qu'il n'a pas trop botché. Fait que donc, tu sais, ta job, c'est de mettons que les devoirs sont tout le temps à la même heure, au même endroit. Si ton jeune s'active pas, de lui dire comment il s'appelle déjà,
Ah,
ton
j'en ai
plus
deux, moi.
jeune.
J'ai mon plus vieux s'appelle Joshua, l'autre s'appelle Isaac.
Bon, admettons, on va prendre Isaac. Fait que tu sais, Isaac est en troisième. Ta job, c'est de faire Isaac, t'as-tu regardé l'heure? Tu brettes, mon grand? Active-toi. Fait que là, il sait, rendu en troisième année, que c'est l'heure des devoirs et leçons. Tu sais, normalement, c'était pas mal tout le temps la même affaire à tous les soirs. Fait que tu sais, il sait. Fait que ta job, c'est même pas de lui dire, Isaac, va chercher ton sac, viens t'asseoir à la table parce que c'est l'heure des devoirs et leçons. Il sait. Réfléchis pas à sa place. Fait que tu peux peut-être juste comme allumer la switch. Il s'installe. Ta job en troisième année, c'est de regarder, bon, ben, est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à faire à soir? Je m'intéresse. Ah, ouais, vous êtes rendu là en mathématiques. Hey, moi, je me rappelle, j'avais trouvé ça difficile. Ou, ah, tiens, vous êtes sur tel texte, etc. Fait que tu t'intéresses, tu l'encourages, petit message de pause s'il faut, puis parce que des fois, ça ne lui tente pas. On dit, ouais, je comprends, ça ne te tente pas, mais garde, embraye, puis tu sais, ça va aller plus vite, puis il fait beau, tu vas pouvoir sortir. OK? Toi, ta job après ça, c'est d'aller préparer le souper. Faire d'autres choses, puis juste lui dire, s'il y a quelque chose, si tu as besoin, je suis pas loin. Ta job, c'est pas d'être assis à côté tout le long. Sauf si ton jeune a des troubles d'apprentissage sévères, puis que c'est bien, bien difficile. Normalement, en troisième année, il est rendu autonome. Fait que là, toi, tu peux faire d'autres choses. Quand tu dis, j'ai fini, là, c'est le temps d'aller voir, puis dire, OK, ouais, mais là, ici, mon loup, moi, je serais même pas capable de lire ce qui est écrit là, là. Tu as écrit ça dans quelle langue? Réfasse, puis réécris-les comme il faut, prends le temps de t'appliquer. Okay? Fait que toi, ta job, c'est de t'assurer que c'est fait, vérifie. Après ça, ben, au niveau des leçons, t'as-tu des trucs à réciter? T'as-tu des choses que je peux t'aider? Merci, tape là-dedans. OK, et super. Et là, après ça, ta job aussi, c'est d'expliquer, mais attends, je sais pas, moi, il n'a pas compris en français. Ben, c'est d'écrire un petit mot à l'enseignante dans l'agenda, puis de
Ouais.
dire, ben, Isaac comprend pas très bien telle notion, j'ai pas osé l'aider de peur de pas dire la bonne affaire. That's it. Puis même à la rigueur, ton jeune décide à soir qu'il boque, puis il refuse de faire ses devoirs et leçons, ben tu peux, toi, ta job, ça peut être de dire, ben écoute, mon grand, il se passe rien dans ta vie tant que tes devoirs sont pas faits. Fait qu'oublie ça, aller faire du vélo avec tes chums, puis aller jouer au basket dans la cour, dans la rue. Il se passe rien tant que tes devoirs sont pas faits. Ta job à ce moment-là, ce sera aussi de voir ben, pourquoi il ne veut pas faire ses devoirs. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a mal à la tête? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Ou bien il fait juste tester la solidité de la règle, l'accueillir, l'aider là-dedans. Puis après ça, ben, ça peut être d'écrire même un petit mot à l'enseignante en disant Isaac a refusé de faire ses devoirs ce soir, appliquer les conséquences si nécessaire.
J'adore. OK. Mais il y a combien de parents, là, comme moi, ce soir, selon toi, là, selon ton expérience, il y a combien de parents ce soir qui viennent d'apprendre que c'est pas à nous autres de faire les devoirs et les leçons de nos enfants?
Ben non.
C'est quoi? C'est 80% des gens qui sont comme moi puis qui viennent de réaliser que je suis peut-être en train, de, sans vouloir le faire, je suis peut-être en train de nuire à mes enfants?
Ben oui. Puis tu sais, je le nomme souvent, mais je le répète, la parentalité, c'est la seule sphère de notre vie où, au fur et à mesure où on gagne en compétences, il faut en faire de moins en moins. On oublie d'en faire de moins en moins d'une année à l'autre. Fait que là, on a pris l'habitude, première année, deuxième année, je suis assis à table, je fais faire les devoirs. Toi, en plus, tu avais deux gars, fait que tu t'installes avec les deux. Puis tu sais, on anime la période des devoirs et leçons. Mais ce que tu réalises pas, c'est qu'à un moment donné, justement, ils ont vieilli. Puis si tu veux qu'ils gagnent en maturité, ben il faut que tu les laisses aller de plus en plus, quitte à ce qu'ils fassent des gaffes. Quitte à ce qu'ils oublient. Tu sais, moi, je me souviendrai tout le temps, mon ex-beau-fils, à un moment donné, on voyait bien, il était rendu au secondaire. On sait qu'il y a un roman à lire pour, admettons, la mi-octobre. De temps en temps, on s'informe de son roman, puis là, il fait « Ouais, j'avance! » Bon, on sait très bien qu'il n'avance pas. Puis lui, il est rendu au secondaire, fait qu'il est rendu qu'il fait ses devoirs dans sa chambre. Mais on sait très bien que dans sa chambre, il brette sur son téléphone.
Mm-hmm.
Et que, bon, il n'avance pas tant que ça. Puis lui, la lecture, pff, il ne traite pas. Le sujet du roman, ça ne l'allume pas. Fait qu'on revient à charge de temps en temps, mais on ne vérifie pas, et c'est volontaire. Et finalement, la veille de son examen, il n'a pas lu le bouquin en question. Fait que là, il se retrouve dans le chenout. Et là, il se dit, ben, mon loulou, tu vas te faire un chiffre de nuit. Ouais, mais là, demain matin, tu vas-tu motiver mon absence à la première période? Ouais, mais non. Si tu lis toute la nuit, puis là, évidemment, il s'est endormi sur son bouquin.
Mais ouais.
Fait que le lendemain, il manquait des bouts. Ben, il y a eu la note qui allait avec. Mais quand je fais ça, j'apprends à mon jeune à faire des choix et à se responsabiliser. Puis ça va lui servir toute sa vie. Fait qu'il y a eu 67 sur son examen de français parce qu'il n'avait pas lu le livre au complet. Bien, c'est une tabarouette de belles leçons. Puis même s'il y avait eu 52, puis qu'il soit obligé de ramer pour se rattraper sur le prochain, bien, au moins, il apprend à se responsabiliser. Alors que si moi, je suis le temps derrière pour dire, là, ce soir, tu lis 10 pages, puis là, t'es rendu où, puis là, bien, si c'est moi qui prends la responsabilité à sa place, ben, il apprend tout le temps à se fier que quelqu'un quelque part qui va lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire.
Ça a du sens. Puis dès ce soir, oui, puis on va en parler du burn-out. Dès ce soir, je vais appliquer ce que SOS Nancy me mentionne, parce qu'on parle avec sosnancy.com, spécialiste en coaching familial. Le burn-out parental, ça existe-tu vraiment, ça? Ou c'est une légende? Okay. Parce que, bon Dieu, que des fois, moi, j'aimerais ça, avoir un petit burn-out parental, là, dire à la mère de mes enfants, « Hey, tu sais quoi, ça fait comme 3 jours, je suis plus capable. Là. Je pense que je prendrais 3-4 jours, là. » À Cancun.
Ouais, mais écoute, le problème, c'est que il n'y a pas de CNESSP. Ça n'existe pas, ça.
Non!
Mais les normes du travail pour les parents, ça n'existe pas.
SOS Nancy détermine comment on détermine ça, le burn-out parental. C'est quoi ça prend pour être en burn-out parental?
En fait, des fois, on a comme une espèce de fatigue parentale qui est normale. On est fatigué, on a envie de tordre le cou de nos enfants. On a justement envie de partir une semaine à Cancun. Le burn-out parental vient, puis tu sais, c'est très proche de la dépression, vient quand à un moment donné, on en est rendu à ne plus avoir le gaz pour s'acquitter de nos tâches normales, que tout nous paraît être une montagne. Le lavage s'accumule, ça déborde, puis c'est pas parce qu'on est d'ajus, c'est parce qu'on trouve pas l'énergie de le faire. Quand se lever le matin, ça devient insupportable. On dormirait tout le temps. On sait que, tu sais, moi, j'ai des périodes dans ma vie où je n'étais pas nécessairement en burn-out, mais tu sais, de dire, ben, je pense que je me coucherais sur le plancher du centre commercial, puis je dormirais là.
Ouais,
je serais capable de ronfler en 8 secondes.
Oui, moi, c'est dans ma voiture, des fois, je me dis, je me couche là, puis ça finit là. On est épuisé.
Mais le burn-out, c'est quand c'est permanent comme ouais. Ça, quand c'est tout le temps comme ça. C'est pas c'est à la fin de la semaine, puis tout ça. Généralement, avec le burn-out parental aussi, vient une espèce de détachement émotionnel.
Oh.
où il n'y a plus rien qui nous dérange, il n'y a plus rien qui nous intéresse, il n'y a plus. Et même, il peut y avoir un détachement émotionnel face aux enfants. Tu sais, moi, j'ai des parents qui me disent, je suis même pas sûre que je les aime encore, mes enfants. J'ai pas le goût de leur donner des câlins. Quand ils viennent me donner des câlins, ça m'énerve. Puis là, ben, tu sais, tu poses la question, t'as-tu tout le temps été comme ça? Si t'as tout le temps été comme ça, c'est peut-être plus au niveau de ta personnalité puis dans le style d'attachement que tu
Ouais.
as. Mais quand tes enfants, il n'y a pas si longtemps, tu les aurais croqués tellement que tu les aimais. Puis là, tu fais juste. Tu sais, j'ai une maman qui me disait, écoute, c'est pas drôle, Nancy, quand j'essaie de ne pas être dans la même pièce que mon fils.
Mais ça demande une grande honnêteté, là, parce que, tu sais, du jour au lendemain, je me rends compte, SOS Nancy, que j'ai plus de sentiments pour mes enfants. Je t'annonce que je vais garder ça pour moi, là. Je garderai
Ben
ça pour
oui,
moi
c'est ça.
parce que j'aurais peur du jugement des autres. Mais quand ça arrive, faut en parler. Faut en parler à des professionnels comme toi.
Exact.
Faut en parler à d'autres professionnels comme des psychologues ou si c'est encore plus grave, des psychiatres. Mais ne plus ressentir rien pour nos enfants, c'est totalement normal. C'est un bon signe comme quoi ça va vraiment pas. Puis quand ça va pas, l'intelligence. Fais en sorte que tu dois en parler le plus possible.
Exact. T'sais, ça nous arrive tous là, de vouloir vendre nos enfants, puis une journée de leur dire qu'est-ce que j'ai eu comme idée de faire des petits, moi. Ça nous arrive tous.
On le dit souvent
Mais
la
quand.
blague, là. On dit souvent la blague.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on a des écœurites aiguës de notre rôle parental, puis ça fait partie de la game. Néanmoins, quand ça devient pratiquement permanent, où j'ai jamais envie de faire quelque chose avec mes enfants, j'ai jamais envie d'écoler, j'ai plus envie de leur dire quelque chose de gentil, j'ai plus envie d'être dans la même pièce qu'eux, ben là, il faut vraiment se poser des questions. Parfois, burn-out parental peut aussi venir avec des idées noires, des idées suicidaires. Ce qui est pas génial. On peut aussi le voir aussi dans certains cas, ben, ça va arriver avec des mécanismes de fuite. Le parent qui, tu sais, on fait bien des blagues, là, tu sais, de dire ouais, ben, je survivrai pas à ma vie de parent sans ma petite coupe de vin du vendredi. Ça, c'est une chose. Mais quand je suis obligée de passer à travers une bouteille de vin à tous les jours pour être capable de dormir, parce que je m'endure plus, puis j'aime plus ma vie, ben, il est temps qu'on se pose des questions. Tu sais, puis là, ben, l'idée est de ne pas se rendre là. Tu sais, si déjà cet automne, tu sais, puis si, pour les parents qui nous écoutent, j'ai envie de dire, ben, prenez du recul, là, puis posez-vous la question. L'année passée, avez-vous aimé votre année? Ou vous avez passé 80% de votre temps dans l'année à sacrer dans votre tête concernant votre vie familiale, conjugale et parentale? Ben, si vous avez passé plein de temps à soupirer, à grogner, à critiquer, à en avoir marre, à être écœuré, à avoir un ton, t'sais, désagréable, parce que c'est ça aussi, t'sais. Si je suis trop fatiguée, sans nécessairement être en burn-out, si je suis trop fatiguée, je ne serai plus capable d'avoir du fun avec mes kids.
Exact.
Je suis plus capable de faire, t'sais, moi, je parle souvent que en intervention, c'est pas le truc qu'on utilise qui fait la différence, c'est ma posture de parent leader, t'sais. Je parle beaucoup de leadership éducatif. C'est mon attitude, mais si je suis brûlée raide, j'y arriverai pas. Tu sais, il y a 2 semaines, je faisais ma retraite annuelle, j'ai une retraite de parents leaders en nature, où je passais toute une fin de semaine avec des familles, puis il y avait une maman qui était là, qui intervenait tout le temps sur ses garçons avec un ton irrité. Touche pas à ça, ôte-toi de là, là. Viens ici, là. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Non, 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 là, je t'achète pas ça. Et elle avait toujours ce petit ton-là qui est pas dramatique. Mais elle était verte comme un poireau. Puis là, je disais, tu sais, je reflétais, mais tu sais, ton ton est comme tout le temps un peu excédé. Puis tes garçons doivent à un moment donné avoir l'impression qu'ils sont de trop dans ta vie. Ils doivent avoir l'impression qu'ils te tapent ses nerfs. Et elle de me répondre, ben, ils me tapent ses nerfs. Et là, je disais, écoute, là, t'as comme un drapeau rouge. Là. Puis tu sais, des fois, on se rend là très, très, très progressivement. Fait que là, t'as un drapeau rouge, là. Il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Now. Parce que tu ne peux pas être le parent dont tes enfants ont besoin quand tu n'es même plus toi-même, quand tu n'as plus de fun. Puis je lui demandais, quand est-ce que tu as du plaisir dans ta vie? Puis les larmes se sont mises à couler. J'ai plus de fun dans ma vie. Je dis, t'es brûlée, ma chérie. Il faut que tu fasses quelque chose.
Ouais, je regardais le commentaire d'un père qui disait je filais pas, j'avais un burn-out parental, je ne le savais pas. C'est mon psychologue qui me l'a annoncé. J'étais juste en mode survie depuis tant d'années avec la période scolaire. C'est un sentiment de ne plus arriver dans aucune facette de ma vie, de ne plus être maître de ma propre vie à cause des enfants et de ne plus vouloir de ces 10 enfants.
Ouais. Hey, c'est triste, là. C'est ça. Et c'est ça. C'est les symptômes du burn-out. Et comme parents, on a une responsabilité de, idéalement, ne pas se rendre là. Puis quand on se rend là, ben il faut faire quelque chose. Tu l'as nommé tantôt. Il faut consulter. Il faut aller voir un spécialiste. Il faut voir, réorganiser les choses. Voir comment on se structure. Moi, tu sais, j'offre un paquet de services de mon côté. On offre d'ailleurs le programme Parents Leaders qui est justement, on travaille sur la conscience de soi comme parents, travailler sur nos vieilles blessures aussi. Parfois, c'est des vieilles blessures qu'on traîne, qu'on n'a jamais libérées, qu'on n'a jamais travaillées, qu'on n'ose pas revoir, retourner visiter parce que ben, ça nous fait peur. C'est des boîtes de Pandore, on a peur de voir ce qu'il y a dedans. Mais si on ne libère pas ces vieilles blessures-là, ben on les traîne comme des boulets, puis ça s'ajoute aux tâches.
Exact. Est-ce que ça peut être considéré comme un baby blues? Parce que je suis en train de regarder les questions qui sont posées régulièrement sur le burn-out parental. Est-ce que ça peut se ressembler à un baby blues ou encore la dépression postpartum?
Oui, en fait, la dépression postpartum ou le baby blues arrive suite à la naissance. Et là, bon, ben, généralement, c'est les femmes qui ont ça. Sauf que le baby blues est beaucoup lié au débalancement hormonal suite à à l'accouchement. Et parfois, le baby blues va être lié aussi à la désillusion qu'on a par rapport à ce que c'est la parentalité. Et bon, après ça, tu rajoutes à ça la fatigue du fait que, bon, ben, tu sais, la femme, on a accouché, ça a tiré énormément de jus au niveau d'énergie. Et puis là, ben, on ne dort pas, on allaite, les hormones qui sont débalancées. Puis là, ben, parfois, tu as l'impression que ta vie de nouvelle maman allait être extraordinaire. Puis là, ben, tu te vois déjà avec un tout petit bébé manqué de patience, avec un tout petit bébé où des fois, tu sais, moi, j'ai fait ça, une dépression postpartum. Moi, j'attendais des jumeaux, j'ai perdu un jumeau. Quand j'ai accouché, je m'attendais à avoir plus de soutien de la part du papa. Or, il s'impliquait pas du tout. Fait que, tu sais, tout ça, puis plus, bon, j'avais fait césarienne d'urgence, j'ai failli perdre ma fille. Donc, bref, tout ça mis ensemble a fait qu'à un moment donné, moi, j'ai perdu totalement la capacité. Je l'aimais, mon bébé, là, mais j'étais une automate. J'arrivais même pas à écouter un film puis suivre l'histoire. J'étais pas capable de suivre une conversation, mais oui, les symptômes vont se ressembler. La différence, c'est plus les causes. Puis justement, j'ai envie de te poser la question, Yannick. À ton avis, pourquoi est-ce que... Bon, premièrement, on ne se cachera pas qu'il y a plus de burn-out parental chez les femmes que chez les hommes. Mais il y en a aussi chez les messieurs, là. Il faut quand même être conscient. Mais il y en a quand même beaucoup plus chez les femmes. Et à ton avis, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un parent va en venir à tomber en burn-out parental?
C'est une bonne question. Puis peut-être qu'il y a un peu de biologie là-dedans, SOS Nancy, puis je vais faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais j'ai l'impression que pour les femmes, c'est ancré en vous de pouvoir sociabiliser, de pouvoir vous entraider, de pouvoir être capable d'échanger. Puis à partir du moment où les femmes ont des enfants, ben, tu sais, le cercle d'amis est un peu plus restreint.
Non,
Les
jamais.
grands-parents sont peut-être pas toujours disponibles. Le conjoint que tu pensais qu'il allait être là, ben, il est pas là comme tu pensais. Fait que là, tu te dis, t'as peu, il n'y a plus personne qui est là pour m'aider. Tu aimes tes enfants, mais tu essaies de faire des petits pas. Puis à chaque petit pas que tu fais, tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens puis que tu n'es plus capable d'avancer. Puis pour les gars, écoute, je sais pas, moi j'ai beaucoup de résilience là, par rapport à mes enfants parce qu'à un moment donné, je pourrais exploser. Là, mais tu sais, je m'attendais pas. Moi, le plus gros, là, c'est que je m'attendais pas. Dans ma tête, la parentalité, il y avait juste du positif.
Okay.
Mais le dimanche matin, quand j'allais me promener aux galeries de la capitale, puis que j'avais amené juste une couche, puis que mon enfant en avait besoin de 6, j'étais là, OK, c'est ça, avoir des enfants. Tu sais, mon enfant, j'amenais mon enfant au restaurant. Écoute, aller déjeuner avec mon enfant, c'était le rêve d'une vie quand j'étais jeune. Tu sais. Hey, moi, je vais amener mes enfants partout et tout ça. Puis dans ma tête, ça allait tout le temps bien, SOS Nancy. Mon enfant, il allait être parfait. Il allait être comme leur mère. Amen. Et finalement, ben, on rentrait dans le restaurant, puis l'enfant commençait à faire des crises. Puis après 5 minutes, ben, tu sais, je quittais le restaurant parce que je voulais pas faire vivre ça aux clients du restaurant qui allaient manger paisiblement avec leur famille. Moi, j'ai pogné 2 minutes, mais je m'en sors souvent dans ma tête parce que je suis quelqu'un d'extrêmement résilient. Puis je me dis, ben, la semaine prochaine, ce sera la bonne. Puis je recommets la même erreur la semaine d'après. Mais pour ce qui est des filles, c'est ça. Pour en revenir à ta question, je pense que biologiquement, les filles ont ça ancré en eux. C'est qu'elles s'entraident constamment dans une communauté. Puis à partir du moment où ils ont des enfants, ben la communauté rétrécit un peu. Puis peut-être qu'ils s'attendaient à avoir un peu plus d'aide. Ça se peut-tu?
L'attention, il faut faire attention. Le burn-out parental peut arriver avec des enfants de n'importe quel âge. Là. Tu peux faire un burn-out parental avec des ados.
Ah ouais, OK.
Alors que tes enfants sont ados. Mais j'aime bien ta notion de sociabilisation dans le sens où dans la société d'aujourd'hui, effectivement, surtout dans les premiers mois de vie, les mamans sont souvent isolées à la maison. Effectivement, alors qu'à l'époque, tu sais, il y avait quand même une espèce de mouvement collectif. Biologiquement aussi, j'ai envie de te dire, les femmes, on a tendance on parle d'instinct maternel.
Ouais.
Ben, l'instinct maternel, je crois, fait qu'on a plus de difficultés à décrocher de notre rôle parental pour penser à autre chose ou penser à soi. Tu sais, fait que si j'ai des enfants, puis plus les enfants sont jeunes, plus c'est vrai, si j'ai un bébé, je le laisse à papa, puis que je m'en vais prendre un café avec ma meilleure amie, ben je risque d'avoir du mal à décrocher, puis à ne pas m'inquiéter, même si papa est extraordinaire. Là. Je risque d'avoir du mal à décrocher de mon bébé. Puis je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un d'autre. Puis on parlait de ça, puis elle disait... On se disait aussi, puis c'est peut-être moins biologique, mais c'est comme si, avec la libération de la femme, avec le féminisme, tout ça, on est allé sur le marché du travail, puis tu sais, on s'épanouit dans notre carrière, dans toutes sortes d'affaires. Mais, surtout, mettons, ma génération à moi, peut-être pas celle de ma fille, mais moi, le modèle de mère que j'avais, c'est une maman à la maison. Une maman qui s'occupait de toutes les tâches et que c'est elle qui était mon parent par défaut, c'était mon parent de référence. Donc, si j'avais une permission à demander, c'était elle que je demandais. Mm-hmm. Si j'avais besoin d'aide, justement, dans mes devoirs, c'était elle. Aller magasiner pour mes vêtements, c'était elle. Fait que c'était tout le temps ma mère, mais elle ne travaillait pas à l'extérieur. Elle travaillait en masse à la maison, mais elle ne travaillait pas à l'extérieur. Et là, moi, quand je suis devenue maman, j'ai eu le réflexe de reproduire tout ce que ma mère faisait en ayant l'impression que c'était ça être une bonne maman. Une bonne maman lave les lits chaque semaine. Une bonne maman s'assure qu'il ne manque de rien dans la boîte à lunch. Une bonne maman s'assure que l'enfant a tout ce qu'il lui faut avant de partir pour l'école le matin. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai ramassé toutes les tâches puis toute la charge mentale que ma mère avait. Puis, pour moi, c'était ça être une bonne mère. Puis là, bon, au début de la vie de ma fille, bon, j'ai été maman monoparentale longtemps, donc j'avais comme pas le choix de tout prendre. Mais après ça, quand j'ai été en couple, ben j'ai ramassé les tâches. J'ai pas eu le réflexe de dire, bon, on va se séparer la charge mentale concernant les enfants. Puis je pense que je suis pas la seule. Fait que, tu sais, je lisais, moi, dans les stats, les femmes, présentement, en 2025, ou en tout cas dans les années 2020, les femmes ont tendance à, en moyenne, mettre 7,5 heures par semaine aux soins des enfants contre 3,5 heures pour les hommes.
Oh, OK. Donc, c'est le double.
Exact. J'ai pas de stats, mais ce que j'observe dans mes familles, c'est que dans le 3,5 heures des hommes, souvent, ce qu'il y a, c'est des loisirs. Faire les transports, amener le jeune au hockey, ringuette, etc. Puis les tâches, puis bon, après ça, on va se parler des tâches, là, mais souvent, la charge que le parent va faire dans les soins aux enfants, c'est beaucoup lié au plaisir et souvent, les femmes vont ramasser encore toutes les tâches plates. Donner le bain, s'assurer que l'enfant mange, les devoirs, etc. Puis là, je généralise, là, on s'entend, c'est des stats, puis c'est des observations en moyenne. Je voyais aussi que dans les familles actuelles, dans le partage des tâches, c'est encore 61% les femmes contre 39% les hommes, incluant tâches à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Et pour la charge mentale, là, ça, c'est penser au rendez-vous chez le dentiste, penser au rendez-vous chez le médecin, les vaccins, s'assurer que l'enfant a tout son matériel scolaire, prévoir les vacances familiales, puis tout ce que ça prend comme matériel, c'est 90% dans la tête des femmes.
Quand même, quand même. Est-ce que, mettons qu'on regarde là, au niveau homme-femme, est-ce que les gars sont plus capables de mettre leurs limites rapidement avec les enfants versus les
Je pense
filles
que oui.
qui, ben, on dirait qu'il n'y a pas de limite à leur patience des fois, ou ils se donnent pas le droit d'avoir des limites à leur patience, puis ils se disent, ben, regarde, c'est mes enfants, faut que je passe au travers, faut que je passe au travers, faut que je passe au travers. Les
Ouais.
gars, on dirait qu'instinctivement, puis moi, ça a été ça, tu sais, mes enfants, quand je suis là. Puis c'est drôle parce que c'est la mère de mes enfants qui me rapportait souvent ça. Quand je suis dans une pièce, puis mes gars étaient dans la même pièce que moi, mettons que j'arrivais, là, ben
Ouais.
rapidement, mes enfants, avant de faire quelque chose, regardaient si je les regardais.
OK.
Puis là, tout d'un coup, ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient, mais ils allaient pas faire le petit plan, là, la petite magouille qu'ils voulaient faire, mettons, donner un coup à son frère et tout ça. Mais quand leur mère était avec eux dans la pièce, ben, ils se permettaient de se taper l'un sur l'autre, t'sais. Tandis que moi, j'avais
Ouais, ben,
établi ça dès
ouais.
le départ, c'est-à-dire, regarde, moi, quand je suis là, j'en veux pas de chamoyage. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas de chamoyage. T'es le grand frère, tu t'occupes de défendre ton petit frère, puis si jamais ton petit frère veut te faire du mal parce que t'as fait quelque chose, tu règles le problème par des paroles, puis si ça fonctionne pas, tu viens voir papa, tu viens voir maman. Puis là, après ça, j'avais utilisé ta fameuse technique de quand ils se chicanent les deux, des emmerdés tellement à un niveau là, de plusieurs minutes ou résolution de conflit, puis parler le plus lentement possible, qu'aujourd'hui, ils règlent leurs problèmes entre eux. Puis c'est très rare que mes gars viennent me voir pour dire, papa, on a un conflit, on aimerait ça que tu le règles. Parce que j'ai utilisé la méthode SOS Nancy, c'est-à-dire quand il y a un conflit, ils ne sont pas capables de le faire, ben ils viennent me voir et je les emmerde pendant de longues minutes sur les principes de la résolution de conflits. Fait qu'ils se disent, regarde, on est aussi bien de régler ça nous autres parce que le père, il va nous endormir encore pendant 45 minutes, là.
Ben, en fait, sur homme-femme, moi, mes observations, c'est pas des stats, là, mais moi, mes observations, dans une famille, je vois tout le temps qu'il y en a un qui est plus habile à mettre des stops, puis l'autre qui a tendance à plus laisser passer. Puis c'est pas, je te dirais que c'est quasiment 50-50
Oui.
homme-femme. Maintenant, il faut juste avoir en tête que c'est plus facile, généralement, pour les messieurs de mettre des limites et de faire respecter ces limites-là que les femmes, puis il y a plein de raisons pour ça. Première raison, la prestance, le ton de voix. Voix grave, attitude costaude, les yeux qui sont un petit peu plus épeurants. Donc, la prestance masculine va souvent jouer inconsciemment dans le cerveau des enfants dans « Oh, mon père a parlé ». Mais là, deuxième chose, c'est que quand je dis que justement les femmes sont responsables de 90% de la charge mentale et passent plus d'heures avec les enfants, c'est aussi les femmes qui, au quotidien, callent les shots. OK? Fait Fait que les femmes, eux autres, là, c'est beaucoup elles qui font « Lève-toi, mon grand. Non, non, ça fait 3 fois que je te demande de te lever. Lève-toi, habille-toi, descends, là, c'est l'heure de manger. Mange encore une bouchée. » Donc, c'est beaucoup les mamans qui donnent les consignes. Mais rapidement, leur ton de voix devient un peu comme quand tu habites sur le bord d'une traque de chemin de fer.
Tu l'entends
Les
plus.
enfants l'entendent plus. Alors que comme papa intervient moins, quand il intervient, oh, pour le jeune, là, c'est comme, hé, mon père a parlé.
Ouais.
Fait que ça a plus d'impact. Comme les femmes passent 7,5 heures par semaine avec les enfants et les pères que 3,5, ben, les enfants ont plus peur de déplaire à leur père qu'ils ont peur de déplaire à leur mère.
C'est la proximité qui fait ce jeu-là.
Ben oui, parce que maman est quand même un petit peu plus acquise.
Ah.
Alors que mon père, moins. Puis ça, aussi l'autre affaire, quand tu disais, ben, les femmes mettent moins de limites. Les mamans, on a un cœur de maman qui fait que si les enfants veulent nous grimper dessus, on les laisse nous grimper dessus. Ils veulent un bisou, on leur donne un bisou, même si on a la bouche pleine. On a comme l'impression. Puis là, des fois, ils peuvent mal se conduire, vider notre genre à patience, puis 2 minutes après, venir nous voir, on veut un câlin. Puis là, on a le cœur tendre, on lui donne un câlin. Les papas ont plus tendance à faire comme. Bon, regarde-moi, là, c'est assez, là, t'es désagréable, je t'aboute, je m'en vais, taponner dans mon garage. Fait que les enfants ont plus peur, admettons, des impacts de déplaire à papa que des impacts de déplaire à maman. À quelque part, c'est une bonne nouvelle dans le sens où, tu sais, si je sens que mon enfant peut se permettre à peu près plein d'affaires avec moi parce qu'il est sûr et certain que je vais l'aimer de toute façon. Ben, tu sais, je me dis, j'ai un bon lien d'attachement, c'est sécurisant pour mon jeune, mais ça a moins d'impact. Chez les parents aussi qui sont séparés, surtout dans les cas où c'est pas une garde partagée, puis c'est, admettons, le papa, il a des enfants une fin de semaine sur deux, ben, les enfants veulent encore plus plaire à leur père, qui devient un petit peu leur héros, puis maman se retrouve un peu avec le chapeau de la méchante parce que c'est elle qui gère le quotidien.
Je comprends.
Fait que plus on gère la poutine quotidienne de fais ci, fais ça, mets tes chaussures, attache tes chaussures, mets ton manteau, il fait frette, plus on en fait de ça, moins dans le fond on a comme d'impact quand on fait wow, c'est assez.
Mais qu'est-ce qui fait que la nature a décidé que nos enfants allaient arriver au monde avec des cartes de petits manipulateurs et manipulatrices en herbe? On dirait qu'ils sont capables de lire en nous, tu sais, jusque où on est prêt à accepter pour que, dans l'abus, des enfants envers nous autres.
Écoute, ils ont juste ça à faire, nous observer. Tu sais, puis nos enfants, là,
Oui, mais
dans le
c'est
fond,
machiavélique, ce West Nancy. Moi, dans la
ben pas en
société,
tout.
j'observe pas les gens dans l'objectif de me dire, hey, comment je peux tous les manipuler? Chez les enfants, on dirait que c'est naturel, c'est ancré en eux. Ils veulent te
En fait, ils
manipuler.
manipulent pas au sens propre, dans le sens où ce qu'ils essayent de faire, c'est de comprendre comment leurs adultes donneurs de soins fonctionnent.
Leurs
Ils essaient de
adultes.
comprendre leur fon le fonctionnement.
Ils nous prennent
Puis,
pour leurs animaux de compagnie.
ils essaient de comprendre comment on marche. Puis eux autres sont en plein apprentissage. Puis c'est
Ouais.
ça, tu sais, leur rôle, là. Fait qu'eux autres, c'est comment le monde fonctionne. Si je fais ça, il arrive quoi? Si je fais ça, il arrive quoi? Ah, quand je fais ça goûte bon pour moi. C'est le fun, je reçois de l'attention, je réussis à obtenir ce que je voulais. Fait que ça, moi, si je sors mes yeux de chaboté avec maman, ça marche. Mais mes yeux de chaboté avec papa, ça marche pas tant. Avec mon père, c'est quand je lui dis que je veux jouer avec lui ou quand je lui dis que je l'admire, ah, ça marche. Mais en fait, ce qu'ils cherchent, c'est juste à comprendre comment leur monde fonctionne. Puis là, ben, ils vont l'essayer avec le prof, puis avec l'éducatrice à la garderie, puis avec grand-maman, puis avec grand-papa. L'idée, c'est comme je veux comprendre la nature humaine pour apprendre à m'adapter, puis à trouver les meilleurs outils. Et là, ben, tu sais, j'ai souvent parlé du principe des chipmunks.
Ouais.
Ben, pour les enfants, de l'attention, c'est des chips. Fait que tout le monde aime les chips croustillantes. Les enfants adorent l'attention positive. Donc, ils aiment beaucoup les compliments, ils aiment beaucoup quand on les taquine, quand on joue avec eux, quand on leur parle de toutes sortes d'affaires, quand on leur fait des, quand on leur donne des bisous, etc. Tous les enfants préfèrent l'attention positive à l'attention négative, comme tous les enfants préfèrent les chips croustillantes aux chips molles. Mais, ben, des chips, c'est des chips, de l'attention, c'est de l'attention. Donc, si un enfant a le choix entre de l'attention négative, des chips molles ou pas d'attention du tout, ben il va choisir l'attention négative.
OK. Sais-tu quand est-ce que j'ai un enfant parfait? Moi, j'en ai deux. J'ai deux petits gars, un de 12 ans, puis l'autre qui a 9 ans. OK? Bientôt 10. 10. Et sais-tu quand est-ce que j'ai un enfant parfait?
Quand tu dors?
Juste pour te montrer à quel point ils sont manipulateurs, là, nos enfants. J'ai un enfant parfait à partir du moment où je gronde son frère. Quand je gronde son frère, là, quand je lui retire un droit acquis, là, tout d'un coup, l'autre se transforme en enfant parfait. Papa, est-ce que tu veux que je t'aide? Papa, est-ce que tu veux que je fasse ci? Papa, j'ai fait mon lit. Papa, je me suis levé tout seul ce matin. J'ai un enfant parfait quand je gronde son frère.
Ouais. Moi, j'appelle ça la dynamique de l'ange et du diable. Tu sais, on peut le voir comme de la manipulation, mais dans le fond, un des enjeux innés chez les enfants, puis tu disais, ben pourquoi la vie les a faites comme ça, c'est qu'un des enjeux innés des enfants, c'est de se faire aimer de leurs parents. Pourquoi? Parce que on recule quand on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon, puis que les parents étaient moins sensibles. S'ils n'aimaient pas leur enfant, ça se pouvait qu'ils le donnent au lion. T'sais, ça se pouvait qu'ils l'abandonnent. Fait que,
Ah, j'ai déjà pensé, mais il n'y a pas de lion en Beauce, là.
Il n'y a pas le lion dans ton coin. Mais tu sais, les enfants se savent vulnérables. Et à l'époque, on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon, ben, ne pas être aimé, être rejeté, ça signifiait la mort. Être abandonné, ça signifiait la mort. Donc, la peur de l'abandon, elle est comme innée à l'intérieur de nous. Et à partir de là, pour contrer la possibilité ou la peur de l'abandon, l'enfant risque de faire beaucoup de choses pour plaire. Et là, quand il te voit chicaner son frère, ben à un moment donné, c'est sa peur de l'abandon à lui qui se réveille. De dire, oh là là, il chicane mon frère, je voudrais pas que ce soit moi. Et c'est là où ils deviennent ultra têteux. Regarde comment moi je suis gentil, regarde
Exact.
comment moi je suis extraordinaire.
Bon.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que, puis observez-le, là, ça arrive dans toutes sortes de situations. On est à table, il y en a un qui dit, Ah, j'aime pas ça, c'est piquant. L'autre va faire comme, c'est super bon, maman, est-ce que je peux en avoir une deuxième portion?
Exact.
Il y en a un qui dit, Ah, ça ne tente pas de faire mes devoirs. L'autre risque de faire, est-ce que je pourrais avoir un exercice supplémentaire?
Ouais.
T'sais, écoute, c'est immanquable. Tu dis, admettons, à un de tes enfants, comme, Oh, wow, t'es cool, toi, t'es sportif. L'autre, il dit, Moi aussi, j'aime ça le sport, moi aussi, j'aime ça le sport, moi aussi, j'aime ça le sport. Regarde, papa, je botte le ballon. Et sont comme tout le temps en train de se batailler pour l'attention et l'amour des parents. Parce que, à quelque part, ils traînent l'espèce de peur ancestrale de l'abandon, de si mon parent préfère cet enfant-là, ben, est-ce qu'il va m'abandonner moi?
Ouais, c'est ça,
Et là,
ça.
toi, en plus, tu as une dyade, fait que c'est encore plus flagrant,
Ouais.
cette espèce de dynamique-là. Puis
Ça a
là,
une...
souvent aussi, plus l'ange est ange, plus le diable est diable. Parce que là, à un moment donné, c'est comme pour récupérer l'attention parentale, pour récupérer ma place dans la famille ou mon sentiment d'être important dans la famille. Si je ne peux pas être parfait, au moins je serai singulier, je serai différent.
Voilà.
Fait que là, plus le diable est diable, plus l'ange est ange, puis plus l'ange est ange, plus le diable a envie d'y tordre le cou. Parce que là, il fait comme Ah, oh, il m'énerve. Fait que là, le diable risque de confronter l'ange. L'ange se fait Ah, oh, mais il peut se transformer en victime. Puis là, il va essayer de se faire de faire chicaner son frère. Fait qu'en tout cas, bref, mais c'est un grand classique.
J'ai trouvé le titre de ta prochaine émission de télé au Canal Vie, là, au Canal Famille. Ça va être « Un manipulateur si proche ». Après « Un tueur si proche », ça va être « Un manipulateur si proche ». Puis là, ça va être des enfants de 2-3 ans, tu sais. Ça serait complètement fou. SOS Nancy, on doit s'arrêter pendant quelques secondes. Est-ce que tu restes avec nous?
Yes!
SOSNancy.com, spécialiste en coaching familial. On parle du burn-out parental ce soir. On va peut-être en parler un petit peu aussi après la pause. Merci d'être là. On revient.
Marceau le soir. Marceau le matin. Marceau le matin. Le matin.
Soleil qui se lève avec nous autres. Salut Soleil, salut les auditeurs, salut à tous ceux qui nous ont écrit entre 5h et 6h. Vous êtes de bonne heure à Québec?
Oh que oui.
C'est qui se passe?
Toi aussi, t'es de bonne heure.
Pensez pas qu'il y avait de la vie avant 10h le matin. Avant, j'étais Marceau le soir. Après ça, j'ai fait Marceau le soir à 18h. Après ça, j'ai fait Marceau le midi. Après ça, j'ai fait Marceau le midi à 10h. Puis là, je fais Marceau le matin de 6h à 10h.
Ouais, fait que là, si on veut descendre encore, va vraiment falloir que tu fasses un show de nuit. Puis là, on va faire le tour.
Exactement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont à l'écoute, des amis, des auditeurs, des collègues de travail. On n'aura pas le temps de vous répondre aujourd'hui, j'en suis pas mal persuadé. Mais sachez que je lis absolument tout ce qui va passer. Puis je vous remercie d'être là. C'est une belle aventure qui débute.
Marceau le matin, tous les jours en semaine, 6h. Puis en rattrapage où, Marceau?
Ben, sur le blvd.fm.
Bravo!
Y a rien là! C'était écrit sur la feuille!
102.1.
Hey, c'est la rentrée scolaire. Boulevard 102.1 et PCN ont un devoir pour toi.
Wow! 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 Les devoirs, j'en ai déjà assez sur le dos, là.
Marceau, arrête de faire le bokeh puis laisse-moi finir. Pense à un de tes proches là, qui traîne une douleur depuis trop longtemps. Va l'inscrire sur le blvd.fm et tu pourrais lui offrir une prise en charge complète en physio chez PCN. C'est vraiment trippant comme devoir, là. Tu vas voir!
Ah, OK! Vraiment? C'est clairement mon genre de devoir, ça. Je le garderais même pour moi si je pouvais.
PCN Physio et Boulevard 102.1, fiers de prendre soin de notre monde.
Ton Internet n'arrive pas premier de classe? L'Internet fibre de e-box, 500 Mbps par seconde à 50$ par mois, ça passe le test. Abonne-toi au e-box.ca.
À l'affiche chez vos concessionnaires Nissan, la liquidation totale. Tout l'arsenal est déployé pour vous offrir les meilleures offres de l'année. Mettant en vedette le héros du moment. Le nouveau Nissan Kicks 2025 à traction intégrale livrable. VUS ou compact le plus vendu chez Nissan et recommandé par l'équipe RPM. Profitez d'un financement à 0% jusqu'à 24 mois et obtenez en plus un boni liquidation de 500$. Passez voir le Kicks dès maintenant.
Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Pour ton abri d'auto.
Chaque hiver, c'est la même histoire. Pelleter, gratter, déneiger, dégivrer, sauf cette année. Grâce à Gérard Bourbeau. Chez Gérard Bourbeau, trouvez les abris d'auto qui font vraiment la différence. Les Tempo, dépositaire officiel Tempo, avec 12 modèles en démo et une équipe de pros pour vous guider. Un hiver sous un abri Tempo, c'est le confort assuré. GérardBourbeau.com. Gérard Bourbeau et fils, Première Avenue, Charlebourg.
Pour ton abri d'auto.
Le complexe de l'Hôtel Maurice, c'est l'endroit idéal pour vos rencontres corporatives, réunions de groupe et rassemblements d'affaires. Hôtel, restaurant, cigar lounge et speakeasy. Réservez dès maintenant pour votre party de Noël. Les disponibilités s'envolent rapidement. Réservez sur hotelmaurice.ca.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière
Chez Top Cornichon, il y a de l'action.
Youpi!
Dès maintenant sur l'appli de Télé-Québec, des personnages rigolos piquent la curiosité de vos enfants.
Cornichou, j'ai une idée.
Avec eux, ils apprennent.
Il faut faire très attention quand on veut traverser la rue.
Et bougent tout en s'amusant.
On va faire des mouvements en même temps. Suis-moi.
Téléchargez l'appli de Télé-Québec.
Bonne idée!
Où vous trouverez plein d'émissions qui plairont aux tout-petits.
Oh! Regarde-toi aussi.
Beau travail, les amis.
Top Cornichon, dès maintenant à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Les soirées se rafraîchissent. Enviro Confort vous accompagne avec des solutions complètes. Thermopompe performant, accumulateur de chaleur et même la géothermie pour un confort durable. Profitez dès maintenant de nos promotions spéciales de fin de saison. Vous chauffez encore au mazout? C'est le moment idéal pour faire le changement et obtenir vos subventions avant la date limite. Enviro Confort, certifié choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation à Québec et Lévis.
Chaque année, la rémunération des médecins coûte près de 9 milliards de dollars aux Québécois. Pourtant, 200 000 personnes vulnérables n'ont toujours pas de médecin de famille. et près d'un million de personnes sont en attente pour une consultation avec un spécialiste. Pour améliorer l'accès aux soins de santé, il faut revoir la façon dont les médecins sont payés. Parce que la santé des Québécois nous tient à cœur. Des changements s'imposent. Un message du gouvernement du Québec.
Vous n'avez pas encore profité de nos prix employés? Bonne nouvelle! Ça se poursuit en septembre chez Lévis Ford. Obtenez jusqu'à 19 000 $ de rabais sur nos Mustang Mach-E 2025. Les meilleures offres de l'année vous attendent chez Lévis Ford, les forts de Lévis.
Depuis plus de 30 ans, Je reçois traiteur nourrit le Québec avec passion et engagement. Avec la campagne Je redonne, chaque boîte à lunch vendue aide à nourrir des personnes dans le besoin. Un geste simple, une grande différence. Pour en savoir plus, visitez jereçois.ca.
Surprise!
Un char, merci pas!
Une 2021, tout un deal.
La lampe magique allumée, ça veut dire quoi?
Ah, ça c'est...
Puis le point d'exclamation rouge.
Collier.
Évitez les mauvaises surprises quand vous achetez usagé. Procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada.
Un bébé, un marathon ou une mauvaise posture au bureau, peu importe votre défi, Kinatex est là pour vous aider à mieux bouger et à vivre pleinement. Une équipe multidisciplinaire, une prise en charge rapide et une qualité de traitement incomparable. Kinatex Sport Physio, votre référence en physiothérapie et en réadaptation.
Demain, dans la presse plus, coulisses, suggestions sorties et coup de cœur de nos journalistes. Le nouveau rendez-vous Sortir vous ouvre les portes de la scène culturelle d'ici. Chaque jeudi, dans les arts. Tout ça et bien plus dans la presse plus.
La clinique dentaire Hélène Bouchard est présentement à la recherche d'un dentiste pour combler son équipe à Saint-Agapi. L'équipe aimerait vous rencontrer, surtout si vous êtes passionné par la profession et que vous avez soif d'apprendre avec nous. Profitez d'une ambiance humaine et décontractée avec une propriétaire unique sur place. La clinique a déjà des patients pour vous et en plus, vous serez au sens inverse du trafic. Postulez dès maintenant au carrière.fm à la clinique dentaire Hélène Bouchard.
Matelas Dauphin, nous sommes l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Notre force, fabriquer des matelas de qualité exceptionnelle à des prix imbattables. Nous les fabriquons, vendons et garantissons sans intermédiaire depuis 55 ans. Pendant le blitz du fabricant, économisez des centaines de dollars plus taxes payées sur tous les formats de matelas Alcove, ultra confortables, dont le double en spécial à 599 $ taxes payées. Livraison rapide et gratuite. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Cet automne, direction Saveur chez Toscanos. Du dimanche au vendredi de 14 à 18 heures, nous avons 6 choix de tables d'hôtes soupe-tôt pour seulement 19,95 $, incluant soupe, plat principal et café. Et dès 16 heures, moule à volonté du dimanche au jeudi. Toscanos, coin Jules Verne et Duplessis.
Quelle belle journée pour venir essayer le superbe Kia EV9 chez Kia Lévis. Avec une autonomie toute électrique jusqu'à 491 km, vous roulerez avec le sourire. Grâce à un taux aussi bas que 2,99% sur 84 mois, le EV9 2026 Wind est offert à l'achat pour l'équivalent de seulement 219 $ par semaine. Passez vite chez Kia Lévis et venez essayer votre Kia EV9. Kia Lévis.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de short, pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
SOSNancy.com est avec nous. Ce soir, on parle du burn-out parental. En 30 secondes, est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est que le burn-out parental, SOSNancy?
Burn-out parental, c'est quand je suis fatiguée de mon rôle de parent, mais à temps plein. C'est à partir du moment où c'est pas nécessairement la job qui m'épuise, c'est pas nécessairement parce qu'il arrive des grands bouleversements. Ouais. C'est mon rôle de parent qui fait que je suis fatiguée tout le temps. Et que dans cette fatigue-là, ben, c'est une fatigue plus. Donc, perte de joie de vivre, perte d'intérêt, perte de plaisir, puis même dans certains cas aussi, perte de sentiment envers mes enfants. Donc, plus envie d'être un parent.
Ouais. Puis est-ce que ça dure longtemps, les burn-out parentales? Moi, je te dirais que c'est le samedi puis le dimanche, là. Mais est-ce que ça dure longtemps quand ça arrive pour de vrai? Est-ce que tu es capable de te sortir de ça après?
Quand c'est un vrai burn-out parental, ouais, c'est pas temporaire. Là.
Non.
Il faut que ce soit soigné. Il faut parfois aller voir son médecin, peut-être même passer par des antidépresseurs. Il faut mettre des choses en place. Il faut entreprendre des changements dans sa vie parce que à un moment donné, on ne peut que descendre. Et là, ben, il y a des risques qu'on tombe en dépression, idées noires, etc. et qu'on ait bien du mal à rebrousser chemin. Donc, plus on attend avant d'intervenir, plus c'est difficile de revenir.
Est-ce que j'ai le goût d'étaler mes préjugés? Est-ce que tu me permets d'étaler mes préjugés?
Vas-y donc, cher.
Normalement, à la radio, les animateurs et les animatrices veulent toujours paraître sur leur plus beau jour. Moi, c'est souvent le contraire. C'est ce qui fait le secret de ma recette. J'ai plein de préjugés. Est-ce que nos grands-parents, là, nos arrière-grands-parents, avaient 10, 12, 13, 14 enfants? Comment ils faisaient passer au travers de ça? Des fois, on en a juste un, puis on trouve ça dur. Des fois, on en a deux, puis on trouve encore ça deux fois plus dur. Eux autres, comment ils faisaient pour passer au travers? Est-ce qu'ils vivaient les mêmes choses qu'on vit, nous autres, en 2025?
Pas en tout. Ils vivaient pas du tout la même affaire.
Non.
Leur vie était organisée bien différemment. D'une part, les enfants étaient responsabilisés très tôt. Moi, là, ma grand-mère, c'est pas vrai qu'au mois d'octobre, elle sortait dehors le matin pour aller voir quelle température il faisait pour dire à ses enfants comment s'habiller. Les jeunes, là, ben, il fallait qu'ils fassent ça tout seuls. Ils allaient voir comment ils faisaient. Puis même dès l'âge de 3-4 ans, probablement que ma mère, ça allait jouer dehors au mois de septembre. Elle sortait en T-shirt, puis finalement, ça avait froid à rentrer, puis elle se remettait un manteau. Tu sais, je veux dire, les parents en faisaient beaucoup moins pour leurs enfants et très tôt, les enfants plus vieux s'occupaient des plus jeunes. Sur la ferme, tu sais, souvent les gens étaient sur la ferme, en tout cas ma mère a grandi sur une ferme, bien, les enfants, écoute, à 6-7 ans, ça allait s'occuper des vaches, puis ça allait nettoyer les stelles, puis tu sais, il y avait des tâches à faire, les enfants. Et même les enfants, ils n'avaient pas le même rythme de vie. Tu sais, l'école, ça commençait pas. Il n'allait pas au service de garde à 7 heures pour partir du service de garde à 6 heures. Tu sais, il allait à l'école, il apprenait, il allait à pied, il revenait, il faisait des tâches, puis le soir, il avait du temps pour jouer. Là. Je veux dire, la vie était quand même, le rythme de vie était beaucoup plus lent. Et, tu sais, dans le temps, c'est ça, avec 14 enfants, c'est pas vrai que la mère s'occupait de tout. Tout le monde faisait sa part.
Puis la responsabilisation des enfants.
Les patates, ben, tu sais, c'était pas nécessairement elle qui les épluchait, là. Je veux dire, il y avait quelqu'un qui disait, toi, t'épluches les patates, toi, t'épluches les carottes, toi, tu vas chercher telle affaire dans la cave.
Ouais.
Et ben, quand tu mettais tout le monde autour de la table, ben, si le petit Julien, là, ou Herménégilde, ça y tentait pas de manger son assiette, ben, elle disait, ben, sors de table.
Ça allait au lendemain.
Tu ne manges pas ton assiette.
Ça allait au lendemain.
Si tu n'as pas faim, c'est ça. Si tu as faim dans une demi-heure, on ne va pas te préparer une collation avec des pommes et des bananes. Là. Il n'y avait pas de pommes et de bananes en plein hiver. Fait que, tu sais, je veux dire, ça allait au lendemain. Fait que les gens n'avaient pas le choix de se responsabiliser. Et la vie avait comme une espèce de rythme très lent où tout se faisait un peu au gré du vent. Aujourd'hui, il mouille, fait qu'on fera pas les foins. Puis demain, il mouille pas, fait que tout le monde sort, on va faire les foins.
Je comprends.
C'était pas du tout la même affaire.
Parce
puis
que souvent,
ça,
c'est ça, on a le tendance à se dire, à se mettre de la pression en disant, nos grands-parents, eux autres, ils en avaient 10, 15, moi j'en ai un, puis je prends une panique. Là. Mais on n'a pas de raison de s'en vouloir parce que c'était un contexte qui était différent. Nous autres, il faut tout simplement demander de l'aide quand on en a besoin à des professionnels de la
santé.
Mais
même la différence entre, tu sais, je l'écrivais sur ma page Facebook récemment, je me remémorais une discussion avec ma mère. Quand ma fille était petite, là, 3-4 ans, câline, que je trouvais que je manquais de patience souvent, puis que justement, j'étais souvent fatiguée, puis que, tu sais, je me trouvais irritable. Et à un moment donné, j'étais avec ma mère, puis qui est décédée maintenant, puis je dis, maman, câline, t'étais donc bien patiente, tu sais, on était trois, moi, je n'ai rien qu'une. Puis là, il me semble, tu sais, toi, tu criais pas, t'étais donc bien calme. Puis là, ma mère fait, wow, un instant, ma grande. Elle dit, là, toi et moi, on n'a pas la même vie, là. Elle dit, moi, j'étais maman à la maison. Moi, elle dit, tout ce qui était les inquiétudes financières, là, elle dit, moi, je ne m'occupais pas de ça, c'était ton père qui s'occupait de ça. C'était lui qui ramenait l'argent. Fait que j'avais pas à me demander, on va-tu arriver à la fin du mois? Fait que, puis elle dit, si on manquait d'argent, c'était pas moi qui allais travailler plus. Elle dit, moi, j'étais à la maison, puis elle dit, le matin, là, elle dit, quand toi puis tes soeurs, vous vidiez ma genre à patience, puis que j'avais envie de vous tordre le cou avant de vous envoyer à l'école, bien, après ça, j'avais 3 heures tranquilles à faire mes petites affaires avec de la musique. Toi, ma grande, quand ta fille, tu l'envoies à l'école, là, après ça, tu t'en vas travailler, puis tu as des dossiers à gérer, puis tu travailles toute la journée.
Mm-hmm.
Puis elle dit, tu sais, elle dit, t'en gères du stock au travail, là. Quand tu reviens le soir, tu vas chercher ta fille au service de garde. Elle est fatiguée de sa journée. Elle dit, toi, tu étais pas mal moins fatiguée. Là. Tu t'en allais à l'école, tu jouais au ballon prisonnier, tu revenais le midi, tu écoutais les Flintstones, tu revenais à 3h30, 4h, tu allais jouer dehors. Elle dit, toi, elle dit, quand ta fille arrive, elle dit, un, elle est plus fatiguée, elle est plus tannante, elle est plus opposante.